Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir le président de la sauvegarde de l'art français, Olivier de Rohan-Chabot, un ami des arts, président d'honneur de la Société des Amis de Versailles, de l'Association de la sauvegarde de l'art français depuis 2005. Il est le premier mécène des églises en France, président de la Société des Amis de l'Hôtel de la Marine, capitaine de vaisseau, officier de la Légion d'honneur, commandeur des arts et lettres, médaille d'or des services militaires volontaires, un beau palmarès. Olivier de Rohan-Chabot, bonjour.
Bonjour Christine Blain.
Aujourd'hui, vous êtes à Radio Grand Ciel pour évoquer cette belle association qu'est la sauvegarde de l'art français. Alors, peut-être pouvez-vous d'abord nous en conter l'histoire. Comment est-ce né ?
Eh bien, c'est une belle histoire.
Oui.
C'est une belle histoire, c'est une association qui a été fondée au lendemain d'un drame épouvantable qui a été la Première Guerre mondiale, qui, hélas, a tué des millions d'hommes, mais également a détruit pas mal d'autres choses admirables. C'est à ce moment-là qu'il y a eu, vous vous en souvenez sans doute, le bombardement de la cathédrale de Reims par les Allemands, sans compter la destruction du château de Coucy par les mêmes Allemands, qui a été un scandale international considérable, comme aujourd'hui Palmyre. D'ailleurs, j'allais dire, l'un préfigure l'autre, hélas. Bon. Et puis également, après la guerre de 14, vous avez eu des attaques en règle contre le patrimoine. On démolissait des hôtels particuliers qui ne trouvaient plus de propriétaires. On exportait, ou on continuait d'exporter des cloîtres entiers aux États-Unis.
Oui, bref, cloisters.
Bref, les dangers étaient partout. Et là, à ce moment, le duc de Trévise, le dernier descendant du maréchal Mortier, combattant du patrimoine, a créé une association qu'il a appelée la sauvegarde de l'art français, dont le rôle a été de sauvegarder les richesses menacées de notre art national et de les mettre en valeur. Et donc il est parti, j'allais dire, en guerre. C'est presque ça, parce que c'était un combattant. Et par exemple, il a encouragé les paysans à se soulever lorsque des antiquaires venaient retirer des cloîtres pour les exporter aux États-Unis, en disant « ça va faire un épouvantable scandale, j'en profiterai pour écrire des articles, et comme ça, les cloîtres pourront rester, et ça s'est passé comme il a dit ». C'était un homme qui avait de l'imagination. Il est également allé aux États-Unis trouver de l'argent, ce qui ne se faisait pas encore dans les années 30. Au début des années 30, il parlait l'anglais, il parlait bien, il savait écrire. Il est allé chercher de l'argent aux États-Unis, par exemple, pour sauver la très belle Bastide de la Resingle dans le Gers. C'est pour les gens qui connaissent bien le Gers, c'est un très bel ensemble fortifié avec des maisons autour de la tour de l'enceinte. Enfin, à l'intérieur de l'enceinte plutôt, et il a eu l'idée de vendre ses ruines, c'était tout en ruines, à des dames riches de Boston, qui ont chacune acheté leur maison pour pas très cher, mais ça a permis de restaurer l'ensemble. Voilà un exemple.
Voilà.
Parmi beaucoup d'autres choses qu'il a faites. Voilà. Alors ça a été la première partie de la vie de la sauvegarde, qui a duré...
C'est-à-dire, ça c'était en 1900...
Alors la sauvegarde a été fondée en 21, reconnue d'utilité publique en 1925, donc très vite. Il avait autour de lui, comme ça se faisait à l'époque, un conseil d'administration assez prestigieux de gens connus, des grands noms de l'époque. Et quand il est allé aux États-Unis, il y est parti avec des lettres des maréchaux Foch, Pétain, du président Raymond Poincaré, de M. Monzy, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
Oui, enfin, ça aide quand même.
Nous avons encore tout ça. Donc voilà, c'était un personnage qui avait une grande visibilité. Tenez, parmi une des choses qu'il a faites et qui n'était pas sans importance, et encore moins sans conséquence, c'est grâce à lui et à son travail de lobbying qu'a pu être votée la première loi d'interdiction de sortie des œuvres d'art.
Ah oui.
Donc c'est pas rien, non,
c'est un homme qui a vraiment marqué
l'histoire de la sauvegarde, de la sauvegarde de la protection du patrimoine. Et alors il est mort après la guerre, lui a succédé ma lointaine cousine, Aliette de Rohan-Chabot, marquise de Mailly, qui était veuve, qui avait travaillé avec lui pendant très longtemps, et qui est morte elle-même en 1900, qui était une femme très remarquable, très, très savante, qui a écrit des livres qui sont, paraît-il, des références sur l'art gothique, sur Provins, sur un certain nombre de choses. Et elle peut dire qu'elle a été la petite nièce de M. Vitet, qui était le fondateur des monuments historiques.
Oui, quand même.
Avant Mérimée. Donc il y avait une tradition de famille du côté de sa mère pour s'intéresser à ces choses-là. Et la tante Aliette a légué une très grosse somme d'argent à la sauvegarde de l'art français. Vraiment très importante, puisque depuis 72, date de sa mort, elle nous a laissé suffisamment d'argent pour avoir pu distribuer depuis lors un peu plus d'un million d'euros chaque année au profit du patrimoine.
Oui, c'est quand même vraiment un don.
Surtout, si vous multipliez ça par 40, ça fait plus de 40 millions. Oui, plutôt plus près de 50 que de 40.
Oui.
Donc ce n'est pas négligeable. Et alors, elle a souhaité que cet argent aille de préférence aux églises, à condition qu'il ne soit donné uniquement qu'à des édifices qui soient classés, qui ne soient pas classés monuments historiques, parce que pour une personne de sa génération, si c'était classé, ça voulait dire que l'État assumait la charge de tout. Donc elle disait que c'était pas la peine de venir au secours de l'État. C'était pas son objectif, c'était de venir au secours des édifices. Mais de préférence inscrits, car elle préférait sauver les édifices intéressants plutôt que ceux qui le sont moins. Mais il fallait qu'ils fussent construits avant le 19e siècle, car pour les personnes de la génération de mes grands-parents, le 19e siècle, c'était l'horreur. Le mauvais goût, comme disait, je crois, Flaubert, le mauvais goût est le goût de la période qui vous a précédé. Donc c'était le cas, ça l'est toujours. Et donc, voilà, donc, depuis lors, la sauvegarde bien s'efforce, avec l'argent qu'elle a laissé, de respecter ses volontés, oui, en venant principalement au secours des églises rurales, bâties antérieurement au XIXe siècle.
Alors comment fonctionne cette association ?
Eh bien, elle fonctionne de deux façons. Il y a d'une part des personnes qui sont chargées de gérer la fortune et de la conserver.
Oui.
Et à mon avis, ils ont dû bien faire, puisque nous sommes encore capables de donner toujours la même chose chaque année.
Oui.
Et je crains que ce que maintenant t'as légué à l'État, il n'en reste plus rien. Est-ce qu'il y a autre chose ? Bon,
oui.
Donc il nous faut des gestionnaires.
Oui.
Mais également, ma tante a souhaité que son argent soit employé le plus intelligemment possible, et de la façon la plus, avec le plus de discernement possible. Elle a donc demandé à ce qu'un membre de l'Institut, M. Jean Hubert, qui était de ses amis, s'entoure de quelques savants comme lui pour conseiller le conseil d'administration.
Donc il y a un conseil d'administration
et un comité d'action. Il y a un conseil d'administration qui gère l'ensemble de la sauvegarde,
oui,
mais ce conseil d'administration se réunit plusieurs fois par an, non pas pour la gestion, mais pour, en plus, je veux dire, pour distribuer de l'argent sur les recommandations d'un comité d'action. Ce comité d'action est composé de grands noms des arts.
Oui, des conservateurs.
Conservateurs des antiquités objets d'art, conservateurs des monuments nationaux, architecte en chef de monuments historiques, membre de l'Institut, enfin, il y a du, comme on dit, du beau monde.
Oui.
Des gens qui ont autorité, pignon sur rue et autorité.
Donc c'est eux qui vont examiner.
Conseiller. Ils examinent les dossiers qu'on leur envoie. Et ils émettent des recommandations. Et recommandations à payer, on leur donne chaque réunion, il y a à peu près 100, 120 000 euros à distribuer. Et
c'est
à l'issue,
eux-mêmes qui...
et à l'issue de
la, vous présidez quand même.
Je préside bien entendu. Parce que c'est le conseil d'administration qui décide, in fine.
Voilà. Donc il y a comité d'action qui conseille.
Voilà.
Et, le
et à, l'issue conseil... de, à l'issue de ce, ça, le conseil d'administration se réunit et décide, en général il entérine, c'est ça, j'ai rarement des cas où où il n'a pas fait ce qu'on lui demandait de faire. Ce qui est important, c'est que, étant donné la qualité des gens qui sont à ce conseil, à ce comité d'action, ils examinent très attentivement les dossiers que l'on envoie. Mmh. Et comme les gens vraiment compétents,
ils en habitent.
Ils voient quelquefois qu'on pourrait peut-être faire mieux, et surtout qu'on pourrait faire moins cher.
Ah oui.
Parce que j'ai vu des cas où l'architecte recommande de refaire entièrement le mur pignon, et l'architecte en chef du monument historique dit non, je suis désolé, mais dans un cas comme celui-là, ça fait 300 ans que ça tient, et ça tiendra encore 300 ans.
Oui.
Donc il n'y a pas d'urgence.
Donc c'est un comité d'action qui regarde vraiment le dossier.
Non seulement qui regarde, mais qui conseille.
Et qui conseille.
Qui peut conseiller les maires. Alors, bien entendu, les gens ne sont pas tenus de suivre nos conseils. Mais nous ne sommes pas tenus de donner de l'argent aussi.
Exactement.
Donc, nous disons, voilà, nous donnons, mais si on nous dit non, ben tant mieux, tant pis. Mais si on nous dit oui, il faut après ça vérifier que les choses soient faites.
Très bien.
Et ça, c'est un des rôles de nos correspondants.
Oui, parce alors parler des correspondants aussi, parce que c'est important.
C'est la cheville essentielle, parce que nous traitons des dossiers que l'on nous envoie. Et nous voudrions être sûrs que, comment dirais-je, le peu d'argent que l'on donne, parce que si vous divisez 1 million par 100, ça ne fait pas grand, ça fait pas grand-chose, aille là où c'est le plus utile.
Oui.
Quelquefois, 5 000 euros peuvent avoir des conséquences extrêmement vertueuses.
Oui, une église qui va pour s'écrouler si on refait
oui,
un mur.
Oui, et puis un maire qui hésite, alors que le conseil général, le conseil régional ont donné leur part, que même l'État a payé sa part, mais le maire a 10 000 euros, il trouve que c'est trop et il ne les met pas. Donc en arrivant avec ne serait-ce que 5 000 euros, eh bien, du coup, il ne lui reste plus que 5 000 euros et ça lui permet de passer avec le conseil municipal. Donc quelquefois, il suffit de très peu de choses pour déclencher un processus vertueux.
Donc les correspondants, il y en a un par département.
Il y en a un, en principe, un par département. Ils ne sont jamais assez nombreux ni assez bons. Ce que nous leur demandons, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils orientent ils fassent venir à nous les dossiers, bon d'abord.
Oui, donc ils doivent aller voir les maires, les églises.
Et les aider, et les conseiller, parce qu'un maire est très embarrassé. Quelquefois, il voit son toit qui commence à s'effondrer, il ne sait pas quoi faire, le maire.
Oui, oui.
Et puis, il a peur, s'il va voir les autorités, d'être engagé dans quelque chose au-delà de ses moyens. Donc, il faut un correspondant qui soit capable de le guider, de l'aider raisonnablement. Et nous aussi, de nous aider dans nos choix en disant, je vous ai présenté 5 dossiers, mais si vous n'en prenez qu'un, voilà celui que vous devriez prendre.
Très bien. Donc, comité d'action, correspondant, et je crois qu'aussi il y a une édition que vous...
Alors ça c'est pour distribuer de l'argent que nous avons pour des édifices. Bon, nous avons une autre action, notre action principale, c'est de sauver le patrimoine.
Oui.
Sauver le patrimoine, ce n'est pas seulement donner de l'argent pour des restaurations, c'est mobiliser l'opinion publique. Donc nous sommes très désireux d'aider tout ce qui peut, enseigner et faire aimer notre patrimoine. Alors, les publications peuvent être utiles pour ça. Par exemple, constatant l'état déplorable des églises de Paris, ça a l'air très fort de dire déplorable, en fait, c'est une litote. Il y a eu un projet de livre récemment, 3 volumes, pour raconter l'histoire des églises de Paris, tout ce qu'il faut y voir, etc. Alors, nous avons aidé à la publication d'un premier volume, en espérant que ça va donner aux Parisiens et aux visiteurs étrangers l'envie d'aller voir ces églises, de se rendre compte à quel point il est important de les sauver. D'une autre façon, il y a une exposition très remarquable qui a été faite, ce sont des exemples que je donne, mais il y a 2 ans, je crois, qui s'est intitulée « Les couleurs du ciel ». Il s'agissait d'exposer l'échantillon des tableaux qui étaient dans les églises de Paris à la veille de la Révolution, qui se trouvent aujourd'hui dispersés pour un tiers au Louvre, un tiers dans les musées de province et un autre tiers dans les églises de Paris. Et le conservateur qui a préparé cette remarquable exposition n'avait pas pu trouver l'argent pour en faire le catalogue.
Donc vous avez participé.
Nous l'avons entièrement payé.
Entièrement
payé. Et je ne le regrette pas, parce que cette exposition a fait date, et depuis lors, il y a un nouvel intérêt pour le mobilier des églises. Donc les gens ouvrent les yeux.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec le président de la sauvegarde de l'art français, Olivier de Rohan-Chabot. Et nous avons expliqué dans une première partie quelle était l'histoire de la sauvegarde de l'art français. Une belle histoire qui montre comment on a pu restaurer des églises. Oui, monsieur le président.
Si vous pouvez me permettre de résumer en deux phrases ce que nous avons dit tout à l'heure, je voudrais dire ceci. Le patrimoine sacré, le patrimoine religieux, si vous voulez, appelez-le comme vous voulez, représente la plus grosse partie du patrimoine de la France.
Oui, c'est ça. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte.
Ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est la plus grande partie du patrimoine de France. Supprimer, l'Europe même, supprimer dans la galerie, dans la grande galerie du Louvre, les œuvres de caractère religieux, vous l'avez complètement... Elle est complètement vidée. ce n'est pas négligeable. Il se trouve que les hasards de l'histoire font que nous sommes la seule association d'envergure nationale qui nous intéressons à ce patrimoine. Voilà.
Oui, c'est ça.
Donc nous sommes forcément les meilleurs puisque nous sommes les seuls.
Alors, nous avons fait l'histoire. Maintenant, il faudrait expliquer à nos auditeurs quelles sont les actions de la sauvegarde de l'art français.
Eh bien, il y a une première chose, c'est de distribuer l'argent dont nous avons hérité de la marquise de Maillet, ce que nous faisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'aide d'un comité d'action, avec l'aide de correspondants qui nous font parvenir des dossiers. Voilà, bon.
Alors là, ce sont les églises.
Chaque année, nous restaurons une centaine d'églises. Enfin, nous participons à la restauration d'une centaine d'églises parce que ces restaurations sont des restaurations de plusieurs centaines de milliers d'euros, quelquefois, qui exigent la participation croisée de l'État, des conseils généraux, des conseils départementaux, j'allais dire généraux, mais départementaux, régionaux, d'autres acteurs éventuellement, et puis des mairies.
Oui.
Et alors nous sommes essentiellement, j'allais dire, des soutiens des mairies. Nous venons alléger leur fardeau si nous estimons que c'est indispensable.
Oui, d'ailleurs, c'est le maire qui signe la demande.
Ah bien sûr. Voilà. Le maire est propriétaire de l'édifice.
Oui.
Le village est propriétaire de l'édifice.
Oui.
Donc c'est le maire qui a le pouvoir.
Voilà.
Vous avez deux acteurs principaux dans une église. Le maire, qui est le propriétaire, et le curé, qui est l'affectataire. C'est absolument comme si vous aviez un propriétaire d'appartement et un locataire.
Pas vraiment, parce que le locataire ne fait pas vraiment tout ce qu'il veut.
L'affectataire ne fait pas ce qu'il veut non plus.
Oui, on peut dire ça.
Il n'a pas le droit, par exemple, l'affectataire, le mobilier n'est pas à lui. Donc il n'a pas le droit de le vendre.
Oui.
Et il peut le déplacer dans certains cas, mais il faut... Si, par exemple, l'affectataire ne pourrait pas déplacer le tombeau du grand homme de la droite à la gauche sans demander la permission de la DRAC.
Oui, ça c'est sûr.
Ça, c'est encore autre chose, parce que c'est monument historique. Mais enfin, l'affectataire est maître de l'emploi des lieux, donc on n'a pas le droit de rentrer là sans lui demander la permission, on ne peut rien faire sans son autorisation, bien entendu. Mais, comme vous n'auriez pas l'idée de rentrer dans un appartement que vous louez et de dire au locataire, je vais changer les tableaux de place. Vous n'avez pas le droit de faire ça.
Non, bien sûr.
Mais la propriété, c'est la commune. Donc c'est à la commune de payer.
C'est ça. C'est pour ça que c'est le maire qui doit signer la demande à la sauvegarde de l'art français.
Absolument, c'est le propriétaire.
Voilà. Alors, l'autre action très importante, c'est le Grand Musée de France. Alors, racontez-nous cette histoire du plus grand musée de France.
Bien, donc nous avons parlé jusqu'à maintenant des murs des églises et des toits qui les couvrent. Bon, mais il y a également à l'intérieur des églises un mobilier qui représente, comme vous venez de le dire, si vous regardez dans sa totalité, le plus grand musée de France. C'est d'une richesse extraordinaire. Il y a parmi les plus beaux tableaux de France dans les églises. Il y a des pièces d'orfèvrerie admirables. Il y a des tissus, on appelle ça de la paramantique, merveilleux. Bon, il y a une richesse d'art prodigieuse. C'est une richesse mobilière. Et là, personne ne s'en occupe. Donc là encore, nous nous sommes dit, il serait temps de prendre le taureau par les cornes et de s'en occuper. Alors s'en occuper, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord faire connaître aux propriétaires et aux affectataires, l'un comme à l'autre, et puis aux fidèles et aux gens qui viennent dans l'église, la valeur de ce qu'ils ont. Parce que nous apercevons très souvent, d'abord, ce n'est pas toujours connu de tout le monde. Même les Dracs ne savent pas toujours. On continue à découvrir des choses étonnantes. Il y a 8 jours, on a découvert un Simon Vouet dans une église d'Evry. Bon, Evry, ce n'est pas le Sahara. C'est à 40 km de Paris. Bon, le Simon Vouet, il est là. Il y a 6 mois, 1 an, on a découvert un tableau de Zurbaran dans une église de Saint-Ouen-l'Aumône.
Ah oui.
Bon, enfin, etc., etc. Mais j'ai des tas d'exemples comme ça.
Et ça, ce sont vos jeunes qui ont...
Non, ça, c'est pas nous, les jeunes, qui l'ont fait. Ce sont des gens plus savants qu'eux. Mais il y a encore des découvertes à faire. Ça, c'est sûr et certain. Et la première chose à faire, si vous voulez les préserver, c'est de savoir que ça existe. Bon, sinon, ce sera pas préservé. Parce que qu'est-ce qui menace les œuvres d'art? L'oubli. Et puis, l'oubli avant tout. La méconnaissance et l'oubli. C'est le plus grave danger. Souvenez-vous de ce tableau, je crois que c'est il y a 5, 6, 7 ans, je ne sais plus, les années passées tellement vite, qui a été vendu par un affectataire, c'est le cas de le dire, curé en Auvergne. Ce tableau avait atterri de l'église dans son presbytère ou dans sa sacristie, je ne sais plus. Bon, c'était une planche toute noire, ça l'encombrait, il l'a vendu au premier brocanteur qui passait pour 4 francs 6 sous. Le brocanteur fut un peu comme gratté. Il s'est aperçu que c'était peut-être mieux qu'il croyait. Il a eu l'intelligence de le faire examiner par des savants. Bref, on s'est aperçu que c'était un primitif français de la plus haute importance qui a été acheté 11 millions d'euros, excusez du peu, par le Louvre. Bon, alors c'est peut-être pas tous les jours qu'on fait des découvertes de cet ordre-là,
mais quand même.
Mais il y en a plus qu'on ne croit. Donc il est très important de faire connaître et aimer la valeur de ces choses-là. Tout ce que nous pouvons faire pour ça est bienvenu. Ensuite, beaucoup de ces œuvres sont en très mauvais état, donc il faut agir. Alors, nous avons quelques années, et puis également, nous nous disons, ce qui est vrai, je crois, que si les gens rentrent à l'intérieur de l'édifice pour y admirer une belle pièce de mobilier, c'est assez facile, c'est assez attirant. À ce moment-là, ils se rendent compte qu'il faudrait remettre des tuiles au-dessus du tableau, sinon il ne va pas rester très longtemps. Donc c'est un processus vertueux qui permet de partir d'une demande de 10 000 euros pour arriver à une dépense de 300 000.
Oui, mais ça va sauver l'église.
Et à ce moment-là, ça peut sauver l'église. Donc autrement dit, l'intérêt qu'on porte au mobilier doit nécessairement aller très au-delà.
Donc comment vous avez opéré? Parce que ce sont des jeunes de Sciences Po.
Alors nous avons opéré de deux façons. Dans la première phase, qui j'espère va continuer et s'amplifier, nous avons commencé avec des jeunes étudiants. L'école du Louvre pour commencer, Sciences Po aujourd'hui, qui, alors dans le cas de Sciences Po, s'est intégré à leurs études, ce qui est très bien, travaux obligatoires. Bon. Et donc, il y a dans chacun des campus, Reims, Le Havre, Nancy, Poitiers, etc., un groupe de 4-5 élèves, qui partent en chasse autour de chez eux, essayent de se renseigner auprès des gens qui savent, pour savoir où il y aurait quelque chose de beau, et adoptent une œuvre en danger.
Alors là, ça fait combien de temps que vous avez ces jeunes?
4 ans. Ça marche bien, d'ailleurs. Ils ont déjà rapporté pour trop. Ils ont sauvé plus de 42 œuvres d'art, dont certaines de très grande valeur, ce qui n'est pas négligeable.
Oui, bien sûr.
Et en rapportant plus de 300 000 euros. Et voilà. Alors pour eux, c'est une formation extraordinaire parce que ça leur apprend.
Alors il y a combien d'équipes d'étudiants?
Alors actuellement, il y en a 8.
8 à Paris.
5, oui, c'est ça.
Et dans d'autres villes?
Il y a une équipe. L'équipe de Paris sont des étudiants de deuxième année qui coiffent les étudiants. Enfin, il y a deux choses. Il y a une équipe stricto sensu parisienne et une autre équipe qui coiffe toutes les équipes pour coordonner l'action.
Ah oui. Donc ça devient important.
Ah ben c'est très important et c'est formateur pour les jeunes.
Oui.
Et puis alors comme ça marche bien et que c'est. On s'aperçoit que c'est très, comment dire, motivant pour ceux qui y participent. Eh bien, nous avons réussi à intéresser un très grand groupe industriel qui a souhaité commencer l'expérience avec quelques-uns de ses sites industriels en ayant la fondation de ce groupe donne 10 000 euros à chacun des sites en disant aux gens qui y travaillent, ouvriers, cadres, de partir en chasse et de trouver eux aussi, dans leur environnement, une œuvre d'art en danger. Et de voter pour celle pour laquelle ils veulent que le groupe donne 10 000 euros.
Et c'est quel. Vous pouvez dire quel est le nom?
Écoutez,
et alors, est-ce qu'on a déjà trouvé des œuvres d'art?
Ah non, ils sont en chasse. Ça vient de commencer. Nous avons trouvé les 10 000 euros pour sauver l'œuvre, mais pas encore l'œuvre.
L'œuvre.
Voilà.
Donc ça, c'est merveilleux, parce que ce sont des gens vraiment du métier qui vont chercher.
Ce sont des gens comme vous et moi,
oui,
qui iront en famille, le samedi et le dimanche, je pense, j'espère en tout cas, ouvrir les portes autour de chez eux, entrer dans les églises, regarder, se renseigner, et choisir ce qui leur plaît, et promouvoir l'œuvre, soit de leur village, soit du village d'à côté.
Oui. Alors je sais qu'il y a aussi une opération avec le guide Michelin, le guide vert.
C'est-à-dire que la fondation d'entreprise Michelin nous a déjà donné trois fois, 10 000 euros pour venir au secours d'une œuvre d'art trouvée par ses étudiants.
Oui.
Et ils trouvent que ce que nous avons est bien. Et donc,
oui,
ils le signalent dans le guide vert.
Voilà. Donc maintenant, on parle aussi de la sauvegarde de l'art français
dans le guide vert.
Dans
oui,
le guide vert.
Tout à fait.
Donc, c'est aussi bien pour votre...
C'est plutôt flatteur. Et puis, ça correspond bien à quelque chose. C'est-à-dire que la première chose que nous souhaitons, c'est la découverte des œuvres. Et in fine, ce que nous voulons, c'est... Oui, vraiment nous voulons. C'est que les Français s'approprient ce qui leur appartient.
Oui, ça c'est très important ce que vous dites.
Fondamental. Vous avez ces milliers d'œuvres à travers la France admirables, ces milliers d'églises et de chapelles et ce qu'elles contiennent. C'est la propriété de chacun d'entre nous.
C'est ça.
Et nous ne pourrons le transmettre à ceux que nous aimons que si nous prenons la responsabilité, acceptons la responsabilité de le faire. Ce ne sera pas... Alors l'État existe, certes, il est efficace, certes, mais il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas tout faire.
Bien sûr. Donc, en fait, c'est un message que vous lancez. Chacun doit regarder dans les églises, doit entrer déjà.
Profitez de ce qui vous appartient. Ouvrez les yeux.
Très bien.
Ayant ouvert les yeux, tirez-en les conclusions.
Eh bien, je crois que nous avons fait un peu le tour de la sauvegarde, enfin un petit tour. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur le Président, d'être venu à Nogent évoquer la sauvegarde de l'art français. Je rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez retrouver sur notre site internet, sur le site internet de la sauvegarde, simplement sauvegarde de l'art français, et vous aurez tout ce qui concerne la sauvegarde de l'art français.
Merci de votre accueil et avec toute mon admiration pour le Perche.
Et puis, si vous voulez aussi nous retrouver, Radio Grand Ciel, sur notre site internet, eh bien, reportez-vous à www.radiograndciel.fr. Merci, Monsieur le Président de la sauvegarde de l'art français.
Merci.